Chaque samedi à midi, du citoyen au politique, 30 minutes pour sonder l'époque au gré des récits de notre temps.
Pour nous, les Jeux Olympiques commencent le 8 mai avec l'arrivée du fameux 3 mois Belém dans le port de Marseille. Et puis viendra le moment des Jeux Olympiques par sa cérémonie d'ouverture, qui sera sans doute le moment le plus impressionnant, le plus difficile à organiser. Puis viendra les épreuves et puis des Jeux paralympiques qui tiendront lieu et en haleine les Français jusque mi-septembre. En imaginant que tout ça soit bien fait et réussi, il y a évidemment un travail de longue haleine d'élongation, comme diraient les militaires. Et d'abord, avant même de penser à la suite, il faut bien voir que pour nous, les Jeux Olympiques, c'est du 8 mai jusqu'à mi-septembre.
Dans une immense élongation, pour reprendre les propos de Gérald Darmanin, ici auditionné début mars au Sénat, la saison olympique débutera donc en mai pour finir en septembre. Dans cet intervalle, il faut donc organiser les Jeux olympiques et paralympiques, certes, mais aussi le Tour de France qui finira sa course à Nice cette année, les festivals d'été, la fête de la musique, mais aussi le 80e anniversaire du débarquement en Normandie et en Provence, avec pléthore de chefs d'État et de gouvernement, ou encore les fan zones de la Coupe d'Europe de football qui se déroule en Allemagne. Cette énumération, susceptible de donner le vertige à tout officiel, pose des enjeux inédits de logistique et de sécurisation. Qui devra en faire les frais ? Dans l'Ain, l'Indre-et-Loire, le Gard, l'Ardèche, l'Aude, la Moselle, le Bas-Rhin, des associations locales qui portent des festivals, des comités qui organisent des fêtes de village, voient des annulations tomber de la part des préfectures. Faut-il y voir un excès de zèle de la part de préfets parfois prompts à surinterpréter les circulaires, comme le fustigent les militants associatifs, ou une simple logique de gestion de risque dans un moment où la France est en plan Vigipirate, urgence attentat, son plus haut niveau? Déjà, la pandémie de Covid et ses contraintes sanitaires ont rogné les possibilités d'organiser des événements dans l'espace public. Les contraintes sécuritaires sonneront-elles le glas des fêtes de village, des kermesses, des carnavals ou de la culture? Que se passera-t-il alors si la rue n'est définitivement plus à la fête? Bonjour Arnaud Thénoz.
Bonjour Nora.
Vous êtes président délégué de la Fédération nationale des comités et organisateurs de festivités. Vous avez 100 ans. Vous avez dépassé le siècle, Arnaud Thénoz, pas vous, évidemment, mais votre fédération. Vous avez lancé un appel il y a quelques semaines pour ne pas tuer les festivités pendant les JOP. Pourquoi cet appel ?
Tout simplement parce qu'on a une inquiétude forte qui se confirme de voir nos festivités populaires dans les espaces publics les plus retirés des villes, notamment dans les territoires ruraux, annulées par un manque de forces de police, forces de l'ordre pour assurer la sécurité des personnes. Quand on dit force de police, et on a entendu le ministre de l'Intérieur tout à l'heure en parler, hein, c'est un défi pour l'État d'assurer la sécurité de tous pendant les Jeux Olympiques, mais il n'y a pas que la police dans le cadre d'organisation des fêtes, il y a aussi tout ce qui est société privée de sécurité, il y a aussi les secouristes, enfin tous ceux qui permettent de garantir la sécurité des personnes, des nombreuses personnes qui s'amusent chaque jour, chaque week-end, durant tout l'été, toute l'année, dans nos villes et villages.
Mais concrètement, ça veut dire que là, vous avez des annulations qui sont tombées à la dernière minute. Qu'est-ce que ça veut dire pour vos adhérents aujourd'hui ?
Alors, des annulations, oui. On en est à plus de 3800 constatées aujourd'hui par les préfets. Annulations qui sont soit imposées, mais c'est le cas minoritaire. C'est surtout des discussions préalables avec les services de l'État et les organisateurs qui aboutissent à une annulation de la part des organisateurs, ce qui est beaucoup plus facile à faire comprendre et à expliquer. Mais ce qui a démarré, c'est la fameuse circulaire du ministère de l'Intérieur en 2022, qui nous prévenait déjà d'un risque de devoir annuler, voire reporter les événements festifs et festivals durant l'été, pendant les Jeux Olympiques.
Donc vous étiez prévenu.
On a été prévenu, mais cette circulaire a été interprétée progressivement par les services de l'État dans les territoires, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de, il n'y a toujours pas de ligne de conduite claire, définie par le ministère de l'Intérieur et par le gouvernement.
Ce qui veut dire que de manière concrète, d'un territoire à l'autre, vous avez des préfets qui ne prennent pas les mêmes décisions ?
Tout à fait. On a des préfets qui ont commencé un recensement global pour savoir exactement là où ils devaient aller, quel type de dispositif ils devaient mettre en place pour permettre justement de maintenir un maximum de festivités. Quant à d'autres, ils ont clairement décidé de ne rien faire parce que trop compliqué à mettre en place sur leur département.
Donc vous fustigez quoi ? Une forme d'excès de zèle de la part de certains préfets et préfectures qui ne sont pas dans la négociation avec vos adhérents ?
Tout à fait. un excès de zèle, pas que nos adhérents d'ailleurs, hein, avec l'ensemble des organisateurs de festivités populaires et culturelles. Hein, il n'y a pas que les fêtes de village, hein, il y a les festivals qui sont aussi une grosse partie des événements festifs estivaux. Certains ont par peur peut-être d'événements particuliers, par manque de moyens ou aussi par simplement peur de prendre cette responsabilité, parce que c'est de leur responsabilité d'assurer la sécurité,
oui,
mais de ne pas prendre ces décisions et de ne pas se concerter avant.
Mais Arnaud Tellez, on peut entendre aussi qu'au vu de l'acrobatie que ça va représenter en termes de sécurisation de ces événements, on entendait cette énumération tout à l'heure, qu'on est en vigilance attentat maximale, on peut entendre en fait à un moment qu'on ne pourra pas être partout.
On comprend tout à fait que certains événements doivent être reportés ou annulés et que les situations doivent être adaptées. J'étais encore hier après-midi avec le président des maires ruraux, Michel Fournier, au téléphone pour parler justement de cette problématique. Même nos amis maires aujourd'hui n'ont pas de ligne de conduite claire et précise qui permette de les rassurer et de garantir l'animation dans les territoires. On a dans les villes où il y a des fan zones, les villes moyennes, hein, on va dire au-delà de 25 000, 30 000 habitants, on peut comprendre qu'il y a une nécessité d'avoir des moyens complémentaires. Là où on ne comprend pas, c'est dans les territoires les plus éloignés, et notamment les plus éloignés des sites olympiques, dans les territoires ruraux, pour dire, là où c'est primordial.
Mais par exemple, vous avez où est-ce que vous avez une annulation dans un territoire rural et très éloigné?
On parlait de Chalamont dans l'Ain tout à l'heure. Nous avons Marbeau, une commune importante de 2500 habitants, à peu près comme Chalamont, qui est aussi dans l'Ain, qui fait une.
On va y aller tout à l'heure à Chalamont.
Qui fait une feria au mois de juillet. Alors vous allez me dire c'est un peu atypique une feria au pays du poulet, mais en tout cas c'est une festivité qui a pris corps et poids depuis une vingtaine d'années, qui regroupe effectivement du monde à un instant T, mais qui est très éloigné.
Mais on a besoin de forces de l'ordre, du coup, pour sécuriser cet espace.
Oui, parce que, alors, ils n'ont pas de chance dans leur organisation, puisqu'ils tombent le week-end de l'ouverture des Jeux Olympiques. Ah. Et là, on comprend tout à fait qu'il y avait lieu de prendre des décisions au préalable. Sauf que ces décisions, elles ont été prises par le comité des fêtes sur avis de la préfecture, bien avant qu'on ait les directives finales. Les premières directives finales qu'on a actuellement, notamment sur le pourcentage de maintien de forces de l'ordre dans les territoires. C'est ça qui va déterminer si on peut ou pas assurer la sécurité des événements dans les territoires.
Mais dans 80% des cas, il n'est pas forcément nécessaire que les forces de l'ordre soient présentes sur le site pendant la durée d'un événement. Alors évidemment, elles sont impliquées dans le dispositif de sécurité, mais il n'y a pas forcément de brigade ou de compagnie de gendarmes mobilisables sur place. Ce que vous dites, c'est qu'il faut peut-être jouer un peu le risque.
On joue toutes les années ce risque. On joue toutes les années et oui, il faut jouer ce risque. De toute façon, il y aura toujours un équipement ou un groupement de gendarmes prêts à intervenir en cas de pépin. C'est le cas dans n'importe quel village. Vous avez une commune de 1000 habitants ou de 500 habitants qui fait une fête par an avec un bal qui regroupe 300 personnes. Bien évidemment, le risque n'est pas le même qu'à Marbeau, où je disais tout à l'heure, où il y a 15 000 personnes qui peuvent intervenir. Néanmoins, il y a toujours une équipe d'astreinte qui peut intervenir avant. Tout se fait dans la préparation de l'événement et la préparation des services de sécurité à mettre en place.
Ce que vous nous dites, c'est que vous souhaitez quelque chose de peut-être plus souple et plus agile. Et bien justement, on parlait de Chalamont. Chaque 1er mai, à Chalamont, dans l'Ain, près de chez vous, se tient la fête du Muguet. Des milliers de personnes se pressent dans les rues de cette ville de 2400 habitants, située environ à 30 minutes de Bourg-en-Bresse, pour admirer les chars. Et surtout pour faire la fête, c'était les 70 ans. Cette semaine, Clara Menet y était.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Chalamont. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 70e anniversaire de la fête des Muguets. Je voudrais que vous passiez un tonnerre d'applaudissements aux deux personnes qui sont là. Roselyne et Didier. Ils ont fait un boulot énorme depuis le mois de janvier. Ils ont tout fait. Et pour vous proposer un spectacle grandiose aujourd'hui, je sais qu'ils font un maximum pour vous faire plaisir.
On a un défilé un peu grand cette année, enfin très grand même. On a quand même 7 chars. On a des groupes un peu qui sortent de l'ordinaire. On a essayé de faire un...
Roselyne Faché, vice-présidente du comité des fêtes de Chalamont depuis une dizaine d'années à peu près. Donc tous les ans pour le 1er mai, on va ramasser du muguet. Il y a un gros corso fleuri. Et en fait, on est une dizaine d'associations. On fabrique des chars. Et on met des fleurs en papier crépon dessus. C'est un travail c'est énorme. On commence déjà début janvier à faire des fleurs parce que le Corso Fleuri, ça fait à peu près 14 000 fleurs en papier crépon. Donc c'est vraiment un gros travail en amont. Et puis voilà, tout est prêt aujourd'hui. Les trois reines qui sont élues, donc une reine et ses deux dauphines, distribuent du muguet à tous les gens. Le porte-bonheur. En fait, pour nous, la fête du muguet à Chalamont, ça fait partie du patrimoine. On se doit de la faire perdurer. Et puis, on y tient, quoi. Il y a même des jeunes qui, derrière, poursuivent l'action avec nous. Donc, je pense que ça devrait encore durer longtemps.
Alors, je voudrais remercier quand même, oui, tous ceux qui font les fleurs, enfin, toutes les petites dames qui font les fleurs depuis, qui ont attaqué au 15 janvier. Remercier le groupe des bricolotes qui nous font plein de décorations, qui nous font plein de petites choses. Olivier et Fred qui nous ont amené tous les boulots ce matin. Remercier tous ceux qui sont derrière la buette toute la journée.
Bruno Charvieux, maire de Chalamont. Un maire heureux et fier de sa commune pour le 70e anniversaire de Chalamont et la fête du Muguet. C'est un très grand événement. Il y en a eu un monde exceptionnel et un défilé magnifique. Alors Chalamont, village de 2600 habitants, au dernier recensement en 2624, avec son côté médiéval. C'est une fête qui est ancrée depuis 70 ans. Et on tient à ce que ça se passe bien. Et franchement, quand on voit le monde qui participe aussi, pour nous, c'est un soulagement, pas un soulagement, c'est une fierté d'avoir une fête comme ça. Là, on est 4-5 000 personnes. Ouais, sûr. On double Chalamont.
Ouais. Est-ce qu'on peut activer le défilé? Oui ou non? J'entends pas là-bas, à droite. Là.
Ah! Tu viens de Paris pour le 1er mai, là.
Comment?
Tu viens de Paris pour le 1er mai de Chalamont?
Ouais.
Ah ouais?
Fait l'aller-retour pour ça, quoi. Putain.
Ouais. Vous aimez bien, vous, cette fête?
Hein?
Vous aimez bien, vous, cette fête?
Ouais, c'est sympa. Ça dure toute l'après-midi. Et après, il y a tous les commerçants tout autour. Vu que ça se passe sur la place, il y a tous les commerçants. Et voilà, c'est sympa.
Moi, j'ai 16 ans.
J'ai 17 ans au mois de décembre. Je suis au lycée à la MFR de la Vernet à Pérona, moi. Donc ouais, on est tous à Bourg, là.
Erin, moi, j'ai 16 ans. Je suis à l'école à Bourg, à Saint-Joseph. Je vois qu'il y a beaucoup de monde pour un jour spécial, quand même. Parce que c'est pas tous les jours qu'il y ait un défilé à Chalamont, donc c'est sympa.
J'ai une famille qui est très ancienne de Chalamont.
Ça montre aussi le temps. Enfin, on se dit ah oui, nos grands-parents ils ont participé aussi en étant jeunes. Ils ont participé au défilé, donc c'est intéressant. On voit ce que nos grands-parents ils ont vécu, donc c'est intéressant.
Vous faites quoi, vous, d'habitude, le week-end, dans le coin ?
Pas grand-chose.
Pas grand-chose. Ouais. Pas grand-chose.
Voilà, Arnaud Thénos, vous qui êtes voisin de Chalamont, puisque vous êtes de Bourg-en-Bresse, ça vous a fait rire d'entendre ces jeunes qui nous parlent finalement de cette dimension patrimoniale, de cette culture, de leurs grands-parents, et puis du fait que peut-être qu'à Chalamont, il n'y a pas grand-chose à faire.
Ouais.
Ouais.
On est dans une belle région qui est vivante, on le voit, et je suis très fier d'entendre ces jeunes qui croient vraiment à faire perdurer ces événements, ces traditions qui ont été mis en place, comme ils l'ont dit, hein, par leurs grands-parents depuis un certain temps. Et cette image-là qu'on a à Chalamont, on l'a partout en France, en fait. Et toutes les fêtes populaires rentrent dans ce rang-là. Et cette jeunesse que l'on croit aujourd'hui ne plus faire la fête, ne plus s'amuser, etc., au contraire, essaye de faire perdurer, et en les adaptant, bien entendu, mais faire perdurer ces événements qui ont pignon sur rue maintenant dans ces régions-là, dans nos territoires ruraux, de manière à ce que ça puisse continuer et que la fête puisse perdurer.
Qu'est-ce que ça représente justement? Alors vous, votre fédération, je le disais, elle est centenaire.
Mmh.
Vous êtes les héritiers finalement des bals populaires. Qui sont justement vos adhérents? C'est que des territoires ruraux? C'est aujourd'hui des espaces qui permettent de faire la fête, alors qu'on se disait, au sortir du Covid, ça y est, la fête est finie?
Ce sont essentiellement des associations, loi 1901.
Ouais.
Pas uniquement dans les territoires ruraux, hein, puisque Nice et son carnaval est adhérent à notre fédération. Donc, on a de tout, hein, Bayonne, les fêtes de Bayonne aussi. Mais majoritairement, parlant, ce sont des associations qui sont dans des communes de moins de 3000 habitants. Et c'est là où, certaines fois, on est très surpris. Vous savez, moi, j'ai un mandat qui m'amène à traverser la France, à aller rencontrer toutes ces structures, rencontrer toutes ces personnes qui s'investissent pour les autres, hein, puisque c'est vraiment...
Oui, c'est un engagement bénévole.
Hein, tout à fait.
175 000 bénévoles au sein de votre fédération.
C'est ça. Ça représente à peu près 3800 structures adhérentes. Et on croise des choses fabuleuses. Incroyable. Je serai dans 15 jours dans un autre village qui s'appelle Uxo, qui est au milieu de la Saône-et-Loire, qui arrive à faire une fête magnifique en haut d'une montagne où il n'y a ni électricité ni eau, et qui arrive à faire venir 5000 personnes sur 3 jours. On voit des choses qui se font, qui sont vraiment incroyables. Et ça, c'est l'engagement des uns et des autres, l'union faisant la force, et la volonté de faire perdurer ces traditions qui fait qu'on trouve ça.
Ce que vous nous dites, c'est que aussi ces fêtes de village qui sont organisées donc par des comités des fêtes,
oui.
Régulièrement donc bénévoles, hein, c'est ce que vous nous dites. C'est aussi ce qui permet dans des zones reculées, dans des zones rurales, aujourd'hui de faire la fête aussi gratuitement.
Faire la fête gratuitement, maintenir le lien. Le lien social est très important partout, que ce soit en campagne ou dans les villes, mais encore plus en campagne parce que on est assez éloigné des centres de ville, on est assez éloigné des infrastructures, et si on veut garder une culture, si on veut garder une activité sociale entre nous, ces associations sont un des piliers.
Et on entendait ces jeunes gens dire à quel point c'était important pour eux d'être là l'après-midi avec les commerçants, enfin voilà.
Avec les commerçants, avec les jeunes entre eux, puisqu'il y a souvent il y a des balles qui sont organisées, des animations musicales. Nos amis artistes viennent aussi animer ces festivités. Bon, là, on est sur du quasiment 100% bénévole sur Chalamont, mais on a des grosses festivités où on a des intermittents du spectacle, des troupes de rue, etc., qui viennent animer les cortèges. J'étais début avril à Denain, dans le Nord, où il y a un magnifique carnaval, où il y a des très très belles troupes artistiques qui regroupent. Et ce carnaval, là-bas, une année sans carnaval, c'est une année morte. On a connu Covid. Covid a fait beaucoup de dégâts là-dessus. Et sur certaines régions, comme le nord de la France notamment, où toutes les manifestations ont été arrêtées, comme partout, ça a été 2 années mortes.
Et on imagine du coup ce que ça peut représenter en termes de retombées économiques pour ces territoires, ce type de festivités.
C'est énorme et c'est là où les gens ne l'appréhende pas. Pendant la période Covid, nous on a mis à profit pour faire cette étude-là. Et donc, les 27 000 structures associatives festives en France, ça représente environ 15 milliards d'euros dans l'économie nationale chaque année. Ça fait plus que les festivals, les grands festivals que l'on connaît. Pour autant, c'est pas celles qui sont les plus visibles, on en parlait, hein, c'est pas celles qui sont les plus aidées non plus. Pendant la période Covid, il n'y a pas eu un centime d'euro d'aide pour ces structures-là qui ont été dans la panade parce qu'ils avaient signé des contrats artistiques qu'ils devaient honorer malgré tout, même si la manifestation n'avait pas eu lieu. C'est ce qui fait aujourd'hui notre crainte aujourd'hui aussi, c'est que si on est assujetti à des annulations par les préfets, on va se retrouver dans ces situations-là qu'on ne veut plus voir, c'est-à-dire voir péricliter des associations pour cessation de paiement parce qu'elles ne peuvent pas payer les contrats qu'elles ont signés.
Il y a les associations, mais il y a évidemment en fait tous ceux qui gravitent autour de ces événements, des intermittents, vous le disiez, du spectacle de rue. Ça, typiquement, avec toutes ces annulations, c'est aussi le risque, c'est de voir ces structures et ces personnes, ces intermittents notamment, être encore plus en difficulté.
C'est une de nos grosses craintes. On sait que le statut d'intermittent est pas facile et qu'il y a un certain nombre d'heures à acquérir pour garder ce statut et leur permettre de vivre décemment durant le reste de l'année. Bien évidemment, s'il y a des contrats en moins, il y aura forcément une perte de pouvoir d'achat pour eux, d'activité. Et pour nous, les associations qui sommes leurs employeurs, puisque nous recrutons par le biais du GUSO ces intermittents, bien évidemment, s'il n'y a pas de lignes de conduite claires qui nous permettent de nous rassurer, on va se retrouver dans l'impossibilité de signer certains contrats. Et bien évidemment, il y aura un impact sur nos amis intermittents.
Un effet boule de neige, donc.
France Culture, sous les radars, Nora Hammadi.
Alors justement, qu'en est-il des artistes ? Judith Pavard est présidente de la Fédération des Arts de la Rue. Elle déplore justement ces contraintes qui pèsent aujourd'hui sur l'espace public et qui risquent d'éteindre ce droit à la fête, à la culture ou au commun. Alors, quelle importance la rue pour les artistes et pour nous ? On écoute.
C'est s'adresser à un public non rompu, en fait, au théâtre. C'est s'adresser à un public qui est là, qui est présent, qui n'est pas invité, qui n'est pas convié. Et c'est permettre justement un échange avec le plus grand nombre sans catégorie sociale. C'est vraiment participer à la démocratisation culturelle, mais dans son texte fondamental.
Vous, par exemple, est-ce que dans les pratiques de vos adhérents, ils vous font remonter qu'ils ont de plus en plus de difficultés à pratiquer l'art dans l'espace public ?
Disons que pour pratiquer l'art dans l'espace public, il faut une autorisation de préfecture. Alors, on a eu diverses crises, hein. Les crises sanitaires où on n'a pas pu se réunir dans l'espace public, alors encore moins y jouer, les crises vigipirates. Maintenant, l'espace public, c'est devenu des ERP, des espaces recevant du public, donc sécurisés avec des barrières vaubans, parfois des passes sanitaires, des caméras, un contrôle à l'entrée. C'est devenu des fan zones un peu. Donc oui, il y a une difficulté. Et là, avec les Jeux Olympiques, on est confronté à une nouvelle difficulté qui est les préfectures sont frileuses à autoriser des rassemblements dans l'espace public de plus de 500 personnes. Mais c'est problématique parce que ça commence à tendre. Les préfectures sont frileuses même pour les plus petits rassemblements, pour tout rassemblement en réalité. On a estimé qu'il y allait avoir peut-être 25% de compagnies qui allaient mettre la clé sous la porte là cette année. Ce sont sur les petits événements, les fêtes de villes, de communes, où elles peuvent justement vivre de leur art. Et ceux-là sont interdits en ce moment. Petit à petit, ça rogne en fait sur la Constitution, sur des points de détail qui n'en sont plus à la fin. Et là, par exemple, c'en est un. Demander l'autorisation de prendre l'espace public, ben voilà, ça n'existait plus après la Révolution française. Ça paraît complètement dingue qu'on soit revenu presque en arrière. L'espace public est notre seul lieu où la culture, elle est faite par toutes et tous, où c'est un échange, où c'est pas simplement à sens unique. On le sait, la culture, c'est un bien fondamental, c'est devenu un instrument d'émancipation depuis l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Donc ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis après, il y a eu la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels qui sont essentiels à la dignité humaine. Faire culture, c'est faire humanité ensemble. On peut.
Alors justement, Arnaud Thénoz, on entendait Judith Pavard, donc je rappelle, présidente de la Fédération des Arts de la Rue. Vous, en tant que présidente déléguée de la Fédération nationale des comités et organisateurs de festivités, qu'est-ce que vous répondez à Judith Pavard qui nous dit finalement, on avait des ERP qui étaient des établissements recevant du public, et aujourd'hui on a des ERP qui sont des espaces publics qui reçoivent du public. Est-ce qu'on est en train de privatiser l'espace public ?
Oui, je pense que oui. Mm-hmm. Progressivement, et Judith l'a très bien dit, la frilosité des préfets à autoriser l'usage de l'espace public, qui est un lieu de liberté à la base, fait qu'aujourd'hui, on privatise progressivement et on décide qui a le droit de faire quoi sur l'espace qui est mis à disposition. Les fêtes, quelles qu'elles soient, c'est pas uniquement le défilé de chars, c'est les artistes, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi nos amis forains qu'on oublie, mais qui utilisent et qui exploitent l'espace public.
Et qui ont aussi des problématiques à y accéder de plus en plus.
Exactement, qui ont aussi des problématiques. Les artificiers s'installent sur l'espace public pour faire les feux d'artifice. Je veux dire, toutes ces composantes aujourd'hui qui font partie de la festivité au sens large, telle qu'on la conçoit, sont contraintes à ces règles impliqués directement par les préfets, mais pas d'une manière équitable dans l'ensemble du territoire. On en revient toujours à la même chose.
Mais après, on voit aussi que des associations qui travaillent autour des questions de droits humains disent que ceci est un peu dans la même veine sur le droit de manifester, ça pose une question démocratique. Et Judith Pavard nous le dit, c'est aussi la question de la démocratisation de la culture, d'un accès à la culture pour tous. Par tous, c'est ça l'enjeu. C'est aussi de permettre à tous, en fait, d'accéder à des choses auxquelles on n'a pas accès quand il s'agit d'espaces fermés.
Bien évidemment. Mmh. On a une multitude d'événements culturels qui se passent dans l'espace public. Je vais encore citer l'un, mais.
Mais vous êtes de l'un. Voilà. On l'a bien compris.
Mais à Bourg-en-Bresse, hier a été inaugurée la Biennale culturelle. qui met à disposition dans l'espace public des artistes, enfin des œuvres faites par des artistes à discrétion de tout public, gratuitement. Et là, on est bien dans l'usage de l'espace public pour que la culture puisse s'exprimer. Et bien sur le travail que fournissent nos intermittents du spectacle, des arts de la rue ou ne serait-ce que nos bénévoles qui animent l'espace, enfin qui animent les villes, les villages, ont de fait aussi une possibilité de s'exprimer dans l'espace public. Un festival, c'est pas que une fête, c'est pas qu'un programme. C'est aussi la manière que chaque individu qui fait partie de l'association ou de l'organisation puisse participer à s'exprimer sur la façon dont il perçoit l'événement qu'il met en place. C'est aussi important.
Donc c'est aussi favoriser la participation, favoriser, vous le disiez tout à l'heure, le lien, le vivre ensemble, l'expression quelle qu'elle soit. Là-dedans, il ne faut pas y voir que des bals populaires et des fêtes de village. C'est aussi la première forme d'action culturelle qu'on a. Et vous le disiez, très démocratique parce que c'est gratuit. Ça veut dire que, fondamentalement, il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans ce rapport à l'espace public qu'on privatise petit à petit, dont on commence à, qu'on commence à percevoir comme une fan zone. Judith Pavard, donc de la Fédération des Arts de la Rue, nous le disait. On sort un peu de la démocratisation. On est en train de grignoter ça.
On veut absolument cadrer et encadrer. C'est ça qui est terrible aujourd'hui, c'est que en voulant faire des demandes d'autorisation spécifiques avec des impositions de quadrillage, de réalisation de RP plein air en fait, en mettant des,
elle a dit un ERP de plein air, donc un établissement recevant
du public mais de plein air. On a des normes, des règles supplémentaires qu'on doit supporter, qui ont des coûts et qui en plus limitent l'expression possible, parce que quand vous avez un espace qui est immense et que vous en conservez que 1000 mètres carrés par exemple pour assurer la sécurité de tous, bien évidemment, l'expression de tout à chacun ne sera pas la même.
Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite ?
Relativement optimiste, c'est ma nature. Il n'y a pas de fatalité. On a toujours des liens avec le gouvernement pour trouver des solutions. Nous espérons que nous allons pouvoir en trouver et que nous puissions conserver un maximum de festivités cet été, notamment dans les territoires les plus éloignés.
Tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Un jour tu réalises enfin un tes fantasmes, mais tu ressens comme un vide parce qu'en fait t'as trouvé ça naze. Un jour tu t'écrases et t'atterris dans la vraie vie. T'es plus vieux que ton père sur des photos de quand t'étais petit. Un jour tu te sens perdu dans les fêtes de famille. Leurs portables sont pleins de photos de gosses, toi t'as que des photos de gamines. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La fête est finie.
Voilà, on ne pouvait pas finir sans entendre Aurel San. La fête est finie, non pas parce qu'il n'y a plus de fête, mais bien véritablement parce qu'il est trop tard et que là, c'est l'heure de rentrer. C'est la fin de cette émission. Merci Arnaud Tenos d'être venu à nous. Je rappelle, vous êtes président délégué de la Fédération nationale des comités et organisateur de festivités. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'application Radio France. Merci à Antoine Dulster qui l'a préparé, à June Loper qui l'a réalisé. À la technique, c'était Élise Leu.